Qu'est-ce que recherche l'artiste ?
Il est enfin important de trouver le message que veut nous transmettre l'œuvre.
Que veut nous dire l'artiste au travers de cette œuvre ?
À quoi veut-il nous faire penser ?
On espère que l'émission vous a intéressé. Maintenant, sur 89.4 FM, vous retrouvez votre émission littéraire Bibliomanie.
Radio Cartable. La radio des écoles d'Ivry.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, vous allez écouter Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand avec la technique Flo des Cailloux qui s'agite, qui va vous préparer des cocktails musicaux de son invention. Je salue au passage Gaël de Radio Cartable. Voilà. Nous, aujourd'hui, notre émission est sur, mais c'est bientôt le temps des vacances, voilà. Il est temps de partir, il est temps de s'exiler, comme on dit, quoi qu'on peut aussi s'exiler en hiver et à tout moment de sa vie. Donc c'est une émission spéciale exil, de l'exil géographique à l'exil intérieur, avec deux invités qui j'ai pensé, mais peut-être que je me suis trompée parce que je n'ai pas la science infuse, deux invités qui ont des points communs. Laurence Biava pour Les Exilés, c'est un roman, ça vient de paraître aux éditions Labyrinthe, et Jean-Yves Clément, L'exil de la pensée, ça vient aussi de paraître aux éditions Le Comte d'Authière. Alors je dois dire tous les deux, bonjour à tous les deux d'ailleurs.
Bonjour, merci.
Bonjour, merci de votre invitation.
Je dois dire que vous avez des points communs. Bon, vous n'avez pas encore, mais moi, vous êtes tous les deux, d'abord Jean-Yves Clément, vous êtes éditeur pour les éditions Le Passeur. Vous êtes aussi un passeur quelque part, parce que vous occupez de... J'allais dire, vous êtes un homme orchestre. Vous occupez de pas mal de... Vous écrivez, vous faites de la poésie et vous occupez pas mal de festivals autour à Nohant, autour du piano. Et puis, Laurence Biava, le piano, ça vous parle aussi?
Tout à fait. Hein, j'ai fait 12 ans de piano classique.
Voilà, donc c'est pour ça, c'est le piano, votre point commun, entre autres. Et je me posais, Laurence Biava, vous vous occupez aussi du prix Rive Gauche à Paris.
Oui.
De manifestation littéraire. Vous êtes agent littéraire aussi.
Oui.
Écrivain.
Oui.
Et tous les deux, vous êtes à la fois au fourneau pour vous-même et au fourneau pour les autres.
Ah,
donc,
c'est ça.
Donc ouais. Voilà, j'ai eu l'idée de...
Bah, on a des points communs, parce que moi aussi j'ai créé des prix littéraires, par exemple, et on est dans le même milieu de la littérature.
Exactement. Ouais. Et puis c'est vrai que le piano, alors, la question que je vais vous poser, mais je la reposerai à Jean-Yves Clément tout à l'heure, c'est le piano finalement, c'est l'instrument de l'exil, l'instrument de la solitude, l'instrument du solo, de se mettre au diapason de son propre territoire, Laurence Biava.
C'est assez juste, je m'attendais pas à cette entrée, mais c'est vrai, ayant fait pas mal de piano, c'est vrai que le piano... concède une solitude particulière, avec souvent de la mélancolie. Solitude et mélancolie, on peut effectivement dire qu'on s'exile, on s'expatrie, surtout soi-même, on s'extravertit, il me semble. Mais en même temps, on s'introvertit aussi. Enfin, bon, puis, la musique, c'est quelque chose d'extrêmement poétique.
Et puis je pensais, il y a beaucoup d'exilés, puisque votre roman s'appelle Les Exilés, beaucoup d'exilés sont devenus de grands pianistes, beaucoup d'exilés aussi parlent du piano, je pensais notamment à Yankelevitch, on a vu récemment une formidable émission qui était en replay à la télé, enfin si on peut dire, c'était un homme extraordinaire de cette musique-là.
Hein. Et qui est né à Bourges comme moi, ça lui donne beaucoup de mérite.
Exactement, c'est vrai qu'il est né à Bourges.
Mais Chopin et Liszt sont des exilés, et moi je m'occupe de leur festival, vous savez, à Nohant ou à Châteauroux, des festivals internationaux, et on peut dire que c'est des visions contraires du piano, parce que autant pour Liszt c'est le monde entier qui rentre dans le piano, pour Chopin c'est vraiment l'âme secrète, tout intérieure, donc c'est vraiment deux différences extrêmes dans l'approche de la musique. Du piano et aussi de l'exil, parce que Liszt est revenu chez lui, il a parcouru la planète entière, alors que Chopin est venu en France, s'exiler et jamais retourné en Pologne. Mmh. Donc c'est très très différent en même temps.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup de formes d'exil. Alors Laurence Biaval, un roman, Les Exilés. J'avoue que je ne m'attendais pas à vous lire. Le dernier souvenir de lecture que j'ai eu de vous, c'est sur le goût des bibliothèques.
Oui.
Et j'ai l'impression que
vous aviez fait une très belle chronique d'ailleurs.
Ouais. Et j'ai l'impression que votre personnage, qui s'appelle entre Pablo et Sébastien, qui a une double identité, dont nous allons parler, j'ai l'impression que c'est un peu un homme palimpseste. Lui aussi, il a des couches dans sa vie, des stratifications.
Oui, bah,
ça se passe, au Chili, hein, voilà.
Ça se passe au Chili, c'est 11 septembre 1973, c'est une date qui est celle c'est le premier 11 septembre de l'histoire. Augusto, Pablo, etc., se rend compte, comprend, au sortir du monastère, parce que il s'est, en fait il y a plusieurs exils dans ce livre, il y a un exil mystique, spirituel, quand on lit le livre on comprend pourquoi bien sûr, mais il y a aussi une quête existentielle qui redouble de vigueur au fil des pages, parce que ce garçon, suite à une rencontre amoureuse déterminante, comprendra qu'il a été victime d'un exil au sein de sa propre famille, et il remontera les traces de son existence pour trouver à quelle famille il appartient réellement, et ce qui est arrivé à lui-même et à sa famille au moment du coup d'état de Pinochet et du renversement donc de Salvador Allende. C'est ça l'histoire, en fait il y a un fond historique. C'est le 11 septembre 1973. Des familles entières ont été décimées, ont perdu leur identité. Je joue sur tous les tableaux, sur tous les registres, sur toutes les formes, sur tous les formats. C'est, en fait, ce livre, c'est une quête identitaire multiple.
Oui.
D'où les exilés
avec multiples lectures intérieures. Enfin, c'est comme s'il avait plein de... Mais comme nous-mêmes, on a toujours plein de vies. C'est comme s'il sortait de sa chrysalide à chaque fois, il découvre sa vie, il découvre le livre de sa vie. Vous avez ces vers, je crois, de Pablo Neruda, au début de votre roman, Laurence Biaval.
C'est beau.
Si chaque jour tombait dans chaque nuit, il existe un puits où la clarté se retrouve enclose. Il faut savoir s'asseoir sur la margelle du puits de l'ombre pour pêcher avec patience à la lumière qui s'y perdit.
C'est tout à fait beau.
Donc, c'est tout à fait ça. La margelle du puits, c'est une image qui est importante, parce qu'il y a une notion de vertige aussi dans votre...
Une notion de vertige, une notion de perte de repère, plus que jamais, et une quête identitaire qui est même triple. Il se réveille le matin, il ne sait plus comment il s'appelle. Un jour il s'appelle Pablo, un jour il s'appelle Paolo, et puis finalement il s'appelle Augusto Sandoval Salinas, et par... au moment de sortir du monastère, c'est la première scène du livre. Je ne peux pas non plus me permettre de... Je n'ai pas envie de trop raconter, de trop détailler. Mais voilà, en gros, grâce à l'association des Chiliens en exil, il retrouve une vie, on va dire, à peu près normale. Il erre dans Paris. Et cette rencontre amoureuse va lui permettre de remonter à la source de son passé. C'est une démarche mémorielle à part entière aussi.
Oui, et moi j'ai pensé à une fable, un peu à la Laurent Godet, hein. Il y a quelque chose un petit peu, je sais que vous aimez Laurent Godet. Le voyageur était bel et bien en suspens, ce mardi 3 juillet, ça tombe bien, hein, voyez, ouais. Vous étiez prémonitoire.
Ouais.
Ce mardi 3 juillet, en fin de matinée, le grincement des roues s'intensifia, le train s'arrêta dans un soubresaut et il se réveilla dans un état de grande confusion. Dans la touffeur du jour, encore troublée par les mots de la fable, il se laissa couler dans le flux des passagers et au sortir de la gare, ébloui par la lumière crue, il s'arrêta quelques instants, puis il se dirigea vers une terrasse de café ombragé où il put déposer son modeste bagage et se rafraîchir. Il était à présent en mesure de prendre contact avec la ville inconnue, voilà. Mais il se sentit bien vite oppressé par les bruits de la rue. Donc, je dirais, Florence Biava, il y a deux temps dans votre roman. Il y a le temps de la fable.
Ouais, voilà. On est sur plusieurs strates. Effectivement, il y a plusieurs strates narratives. Et j'ai essayé de jouer avec ça. Alors, on m'a parfois reproché des dialogues que je me suis empressée de corriger, que j'ai même supprimé à certaines reprises, parce que je voulais absolument faire sentir ce hiatus. Il y a un hiatus qui est puissant, oui, dans ce livre, entre les identités qui sont multiples de cet homme, qui est complètement paumé, qui est un type complètement paumé, disons-le, et marginalisé, voilà. Et après, avec le jeu des correspondances, la reprise des contacts, le fait d'écrire à l'association des Chiliens en exil, etc., etc., les choses commencent à aller mieux et à rentrer dans l'ordre. Je tiens à préciser qu'en fait, ce livre, mais peut-être alliez-vous me poser la question, c'est une histoire qu'on m'a racontée il y a très longtemps, il y a 20 ans. J'avais une amie chilienne qui m'a raconté une histoire. Alors, elle me l'a racontée. Est-ce que c'est la sienne? Est-ce que c'est celle de quelqu'un d'autre? En tous les cas, ça a fait ce qu'on appelle effet boule de neige. Donc, je me souviens que j'avais pris des notes, etc. Et puis, je l'ai évidemment beaucoup romancée. Et puis, j'ai inventé la partie amoureuse qui n'existait pas. Merci. Mais c'est quand même une histoire. Parce que, honnêtement, je ne suis pas allée au Chili. Je ne suis pas allée au Chili et je ne suis pas une historienne, mais je me suis évidemment beaucoup renseignée pour écrire ce livre, comprendre le 11 septembre 1973, etc., etc.
Et oui, vous n'avez pas, mais on n'est pas censé.
Non, mais tout à fait. Non, mais voilà, je le dis parce qu'on m'a aussi souvent posé la question.
Alors, ce que je voulais dire, oui, effectivement, il y a une grande, il y a deux temps, c'est-à-dire il y a un temps où de la fable. Ouais. Du rêve, j'irais presque du réveil. Il est comme dans un songe où il se réveille. Ça, j'ai beaucoup aimé.
Oui.
Après, il y a le temps du dialogue,
ouais,
qui est beaucoup plus pédagogique, j'allais dire, beaucoup plus... Voilà.
Il y a quelque chose de métaphysique aussi, j'y tiens. Il y a quelque chose de métaphysique dans le sens où c'est un homme de foi. C'est un homme de foi, c'est un homme de croyance.
Oui.
Et j'ai essayé.
Je suis pas tout à fait.
Bon.
Il se découvre. C'est, ouais, quelqu'un qui se découvre, qui n'arrête pas de se découvrir.
D'accord.
Jusqu'alors, il avait prononcé, récité, voire spalmodié des séries de mots par phrases, ouais, entières, sans les avoir toujours épousées. Et voilà qu'il habitait ce petit nom, sorti du néant. Et par le miracle de cet affleurement, il sentit remonter en lui tout un flot d'émotions inconnues. Donc le nom que, ouais, l'on porte, le nom que l'on s'attribue,
vous détermine.
Il y a beaucoup
de morphopsychologie.
Bon.
Il y a beaucoup de morphopsychologie. Le jeu avec les noms, les prénoms, c'est quelque chose qui m'a intéressée. Il y a une recherche psy aussi dans tout ça.
Il y a beaucoup de rencontres aussi. Alors, ouais, présentez-nous Laura. Voilà, ces mots partagés avec Laura faisaient sens, tout comme le plasticien, le poète, avait inscrit à jamais sur le papier des pensées qu'il concernait lui, Sébastien.
Laura, voilà. C'est une fille tout à fait sensuelle, romantique, charmante, qui est là pour un petit peu le... C'est un peu son sauveur quand même. Hein. On est dans un format de...
Alors,
couple tout à fait classique, ordinaire, romantique. Elle sent bien qu'il a parfois un problème spatio-temporel. Il a des absences. Il est ailleurs. Et il est aussi en exil. Il est en exil de lui-même, souvent.
Donc il faut dire, pour récapituler l'histoire, qui n'est pas si simple que ça.
Oui, c'est plusieurs strates narratives.
Il fuit un monastère, c'est ça, il s'enfuit d'un monastère.
C'est la première scène du bouquin. Ouais. Il s'enfuit d'un monastère, et après, il décide de faire tout à fait autre chose, parce qu'il ne va pas bien, parce qu'il sent qu'au fond de lui, quelque chose le turlupine, comme on dit. Quelque chose le fait trembler. Il y a un tremblement intérieur en cet homme.
Et à partir de ce moment-là, il y a une sorte d'enquête sur ses origines.
Voilà, sur sa généalogie.
Qui est-il ? Quelles sont ses vies ? Quels sont vraiment ses parents ? Quels sont ses parents biologiques, d'ailleurs ?
Tout à fait. Qui je suis, d'où je viens.
Voilà. Donc à partir de ce moment-là, le compte à rebours est enclenché, comme au théâtre. Tout et d'ailleurs, fait. Vous parlez du théâtre, beaucoup, Laurence Piava.
Il y a ça, pas mal de théâtre, et puis aussi de musique, d'activités, de loisirs, d'endroits où il souhaite aller pour se mesurer aux autres. Pas mal.
Nous, gens de théâtre, qui voient se développer tout à la fois un besoin de mémoire et un désir d'effacement, nous devons favoriser l'éclosion de la parole. Je dirais que le théâtre amateur et théâtre populaire sont pratiquement synonymes au Chili. Donc au Chili, il y a toute cette culture du théâtre que vous restituez.
Oui.
Parce que c'est un roman, je dirais presque pas polyphonique, mais il y a plusieurs prismes. Il y a son prisme intérieur, sa recherche, et puis il y a le Chili qui apparaît par petits bouts, comme un puzzle.
Au début, ça apparaît par petits bouts, et puis après, on y est, puisqu'il fait le voyage. Il fait le voyage aller, il fait aussi le voyage retour. Oui, j'y vais petit à petit. Petit à petit, on pénètre l'histoire. On pénètre l'histoire du Chili. C'est comme au mi-temps du livre, il me semble qu'il y a un nouveau livre qui s'ouvre. C'est le livre du Chili. Et il me semble que la fin est réussie avec ces gens retrouvés, les siens retrouvés, et cette boîte ouverte avec toutes les photos. Et c'est un tel, tu te souviens, c'est un. Voilà, moi j'ai aimé ma fin.
C'est bien.
Aimé ma fin, je l'ai trouvé jolie, tout simplement.
Le théâtre populaire s'est magnifiquement relevé, il a multiplié les canaux d'expression, en dialoguant avec d'autres genres, en développant l'image sous toutes ses formes, le théâtre a démultiplié les accès au sens, c'est de tout cela que nous définissions aujourd'hui. Je dirais qu'il lève le masque, il lève le masque sur ses vies passées. C'est comme une pantomime, finalement.
Les
personnages de votre roman, ils se succèdent comme des silhouettes d'une pantomime.
C'est un théâtre d'ombre.
Oui, c'est ça.
C'est un théâtre d'ombre, et à partir du moment où, enfin, il arrive au Chili, il comprend ce qui s'est passé. Les morceaux de Pulse
se recomplètent,
et il comprend les tenants et les aboutissants de ce coup d'État militaire. Voilà.
Alors il y a cette très belle phrase, Laurence Biava, d'Octavio Paz. Contre le silence et le bruit, j'invente la parole, liberté qui s'invente elle-même et m'invente chaque jour.
Ouais.
Liberté qui s'invente elle-même et m'invente chaque jour.
Ouais.
Donc ce silence est là aussi.
Aussi, j'ai tenté de faire coller l'un à l'autre, à la fois la parole qui se libère et le silence intérieur.
Et le silence de la mémoire.
Le silence de la mémoire qu'on retrouve, qu'on redécouvre et qu'on réhabille aussi. C'est pas le même silence que quand il quitte le monastère tout au début, vous voyez.
Ça n'a rien à voir.
J'ai essayé de faire en sorte que c'est un texte où il y a beaucoup d'ambivalence. Il y a beaucoup de verbes aussi, il y a beaucoup de mots. Cet homme se remémore, se fait sa propre psychothérapie finalement quelque part. Il est dans une quête existentielle, on n'est plus dans le murmure du début avec Laura, il y a des scènes intéressantes il me semble. Et puis les scènes finales avec la famille retrouvée sont aussi et on va quand même de non pas de surprise en surprise, enfin un peu
On y va par étapes
et c'est une la fin est une synthèse intéressante il me semble de lui-même totalement retrouvé.
Quant au mot silence, écrivez-vous, il fait signe, il donne à voir en profondeur que ont été saccagés, détruits. Ouais. Pour jouer des paradoxes, je dirais que 3, c'est le mot le plus sonore, car lorsqu'on l'interroge bien, il finit par se mettre à parler, et par Lambeau, bien sûr. Donc il y a comme ça des avancées dans son passé qui lui revient par ricochet, comme un miroir.
Il a des effets boomerang, comme quelqu'un qui ne va pas bien. Vous savez, souvent, les gens qui ont des problèmes psychiatriques sont rappelés un peu à eux-mêmes par des réminiscences, oui, des choses qui ne sont pas passées.
Sauf que là, Laurence Biava, excusez-moi, mais quand on vous a caché votre identité réelle,
évidemment,
vous pouvez que vous sentir un petit peu mal.
Il est totalement dévasté intérieurement, bien entendu.
Parce que on lui apprend, c'est une naissance. Je dirais que c'est une naissance en plusieurs temps. Il y a des valses à 4 temps, des valses. Alors vous naissez. Il en finit pas de naître à lui-même. Ouais.
Et c'est au fur et à mesure qu'il change de prénom, d'ailleurs. Il se réveille parfois le matin, il ne sait plus qui il est. Non, c'est particulier. C'est particulier, cette histoire. C'est particulier, c'est vrai.
Voilà, bah écoutez, on va faire une petite pause musicale et nous allons poursuivre notre chemin aux côtés de votre personnage tout à l'heure.
Alors, la pause musicale, elle vient de Santiago du Chili. C'est Anita Valero qui, avec Oscar Castro, peut-être que l'invité connaît, avait fondé le théâtre Aleph à Santiago du Chili. Et ils ont fui en France. Ils avaient fondé avec d'autres personnes qui n'ont pas survécu. Ils ont atterri à Ivry. Et le théâtre Aleph à Ivry a été fondé par Oscar, qui depuis est mort du Covid. Et Anita, elle est au Duende avec ses deux enfants, Sébastien et Andrea. Et ils ont monté une pièce absolument bouleversante sur leur exil, justement, qui va être reprise à la rentrée. D'accord. Donc voici Anita Valero qui fait toute la composition musicale du théâtre El Duende. Et le CD, c'est la banda de Chiricala. Et voici Anita Valero, Exil du Chili. Flor de canela, ça s'appelle.
Un barco perdido en el mar.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous écoutez l'émission Bibliomanie. Aujourd'hui, en présence de Laurence Biava, qui nous dit tout sur Les Exilés. C'est un roman qui vient de paraître aux éditions Labyrinthe. Et Jean-Yves Clément pour L'Exil de la Pensée aux éditions Le Comte d'Authière. Laurence Biava, c'est vrai que je dirais que votre roman nous dresse une cartographie imaginaire et en même temps réelle, puisque votre personnage qui s'appelle Sébastien, mais aussi
Augusto,
mais Pablo. Aussi Pablo, il a un frère qui croit qu'il est son frère. En fait, il n'est pas son frère. Non. C'est son frère de lait, comme on disait autrefois. Et il va les dialogues avec son frère sont comme des résonances, des électrochocs aussi.
Vous trouvez?
Oui. Mais c'est positif, c'est-à-dire il
y a beaucoup de correspondances dans ce livre, hein, puisque comme il cherche, plus il cherche, plus il avance, et plus il avance, plus il est comme le petit poussé, il a des cailloux, il pose des cailloux devant lui, et c'est vrai que ce frère est profondément bienveillant, et à partir du moment où il a réussi à retrouver son contact, il ne se quitte plus. Ils s'écrivent, ils se téléphonent, etc.
Beaucoup de téléphones,
comme tout à chacun, comme on ferait quand on veut retrouver quelqu'un de sa famille. Ça a son côté perdu de vue, vous voyez, quelque part. Bon, je dis ça, je ris un peu de moi, il faut aussi rire de soi. J'ai travaillé beaucoup, et justement, ça fait partie des. Il y a quelques dialogues que j'ai supprimés parce qu'il y en avait beaucoup trop.
Oui, ça, vous avez bien fait.
C'est pas forcément là d'ailleurs où j'excelle le plus, mais je pense que les dialogues avec le frère sont plutôt réussis.
Oui, c'est pour ça que je vous en parle d'ailleurs.
Tout à fait, oui. Non, mais
ils sont réussis, et c'est-à-dire qu'ils construisent à deux un passé qui leur a échappé, et que les parents ne leur ont pas parlé, puisque les parents...
Ça vire un peu aussi affaire de famille, enfin, on est à la recherche d'une unité, on essaye de recoller tous les morceaux, pour retrouver l'unité familiale qui nous a été retirée en quelque sorte, ou qu'on n'a pas vraiment connue. Voilà. Lui, au départ, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Quand il sort du monastère, en fait, il y a un élément qui est important, c'est le certificat de naissance. Il a un certificat de naissance dont il sait qu'il a été émis rétroactivement par l'administration Pinochet. C'est tout ce dont il sait.
Voilà. Il n'a que ça.
Il n'a que ça. Donc, il avance comme il peut. Il est complètement perdu. Il est démuni. Il est désespéré. Il a un fracas intérieur qui est réel. On peut aussi souligner la scène qui me semble poétique avec l'enfant au début, là.
Oui.
Il s'attarde sur cet enfant, etc. Et je pense que cet enfant, vous parliez de résonance, convoque chez lui une résonance particulière, des premières réminiscences.
C'est comme s'il a des scènes de rêve qui le ramènent à la réalité de sa vie.
Voilà.
Pablo comprit que cette terre hors sol lui avait façonné un autre paysage mental, hors du pays d'origine, celui qu'on avait un jour appelé Sébastien, était devenu semblable à un paysage dont l'immatérialité ressemblait à la fable qui naît sous les doigts du plasticien.
Oui.
Donc il y a cette sorte de... C'est comme s'il était avec... Vous savez, on parle des métavers, mais c'est comme s'il avait des scènes qui lui apparaissait comme ça. C'est ce côté sablonneux aussi des paysages, vous ressortez, il y a un côté mirage.
C'est flou, c'est tout à fait ça. C'est des mirages, c'est des micro-utopies, des illusions, quelque part. Voilà. Et en fait, il se raccroche, c'est un homme qui se raccroche à ce qu'il peut, avec les éléments que la quête existentielle qu'il mène lui donne petit à petit. Mmh. Il fait ce qu'il peut.
Et il y a, je crois que c'est Laura ou quelqu'un d'autre qui lui dit « Traité en étranger, il s'est comporté en étranger ». Ça, c'est une phrase très importante. Ah. « Traité en étranger, ouais. Il s'est comporté en étranger ouais. ». Donc là, il n'est plus étranger à sa vie. Progressivement.
Il n'est plus étranger à sa vie, progressivement, grâce à cette femme, grâce à ce frère, grâce au contact avec ces gens sympathiques de l'association des Chiliens en exil, grâce aux correspondances, et vous remarquerez que plus on avance dans le texte, plus les correspondances s'allongent et s'amplifient. Jusqu'à la fin, jusqu'à l'épilogue.
Avec des échos très visuels. Par cette disparition, Pablo venait de découvrir quelque chose d'essentiel. Il pouvait admettre que l'horizon pose illusoirement une limite provisoire entre deux dimensions du réel, le visible et l'invisible. Il parvenait à comprendre que ce qui lui était apparu comme une frontière indiscutable pouvait tout aussi bien constituer pour l'esprit un seuil, un passage dont l'issue se dérobe toujours à celui qui cherche continuellement à le rejoindre. Ouais. Donc il y a un côté un peu initiatique.
Initiatique et Colalie aussi, pas mal.
Ah, dans ce roman, où finalement... Alors est-ce que vous avez eu, Laurence Biava, est-ce que vous avez eu des modèles quand vous avez écrit ce roman, ou est-ce que quel était le déclic? Parce que finalement, vous m'en avez pas
j'avais
trop...
J'avais ça dans mes tiroirs.
Il y avait cette rencontre, voilà.
Il y a 15-20 ans, et puis je me suis dit, c'est une histoire extraordinaire qu'il faut raconter. Avec mes mots, j'ai fait pas mal de bibliothèques, de recherches sur le Chili. Je voulais pas m'éparpiller trop, raconter. J'aime pas raconter des bêtises. Hein, j'ai besoin quand le fond, bah, c'est quand même, on est dans un cadre historique. Mmh. Donc même si le roman n'est pas un roman sur Pinochet,
bien sûr,
mais il fallait que le fond. Il fallait que ça se tienne. Donc, je me suis quand même beaucoup renseignée. Et puis après, j'ai mis presque 3 ans à écrire ce livre. Mmh. Petit à petit, moi-même, petit à petit. Je me suis souvent perdue. Mmh. J'ai fait beaucoup de corrections. J'ai fait un travail, une recherche très, très scrupuleuse. Je l'ai beaucoup relu et j'ai écrit. Alors, je n'écris pas à la main, j'écris directement sur mon clavier d'ordinateur. J'ai fait ça. J'ai fait ça il y a quelques années maintenant. Mmh.
Ouais. Il y a beaucoup de romans sur le Chili. Enfin, sur cette période-là.
J'en ai pas lu beaucoup.
Ouais. Donc, parce que vous pourriez, ouais, pour comparer, ouais, ouais. Faut savoir un petit peu.
Non, j'ai pas. Alors, si c'est votre question, j'ai pas lu de roman sur le Chili qui m'aurait donné envie de passer, de mettre le mien, mon projet de roman moi-même à exécution. Non, non, j'ai pas tenu compte des autres. C'est après que j'ai vu. Oui, il y a sans doute un ou deux romans sur le Chili, mais. En fait, je trouve que cette partie, ce pan de l'histoire contemporaine, quand même, mm-hmm. précise, enfin, n'est pas aussi raconté.
Oui,
que
c'est
ça.
C'était un peu ça ma question.
C'est pas aussi raconté que ça. On n'en sait pas grand chose. On se souvient maintenant surtout, ce qui est logique d'ailleurs. Mm-hmm. On n'est pas là pour parler de la société d'aujourd'hui, mais enfin, quand on voit les conséquences du 11 septembre 2001, c'est vrai que voilà, on a tendance quand même à se référer en 2025 au 11 septembre 2001. Mais on ne parle plus du 11 septembre 1973. On a l'impression, je sais pas, il y a un côté un peu. Grand fait d'histoire, mais qui ne nous concernerait plus.
Oui. Il y a un côté aussi chose trappe de l'histoire, c'est-à-dire tout d'un coup, paf, on oublie très vite. Et ça,
oui,
c'est notre société actuelle.
Tout à fait.
Nous sommes une société de l'image, oui. Où tout de suite, les images se succèdent, et vous êtes dans un tourbillon d'oubli. Oui. Ça va très vite. Ça va très vite.
Il y a ça, et puis très sincèrement, je pense que ça n'intéresse plus personne. Le 11 septembre 1973, le Chili, c'est tellement loin de nous. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Je trouve qu'il y a un truc dans ce style. Mm. Peut-être que mon ami à côté de moi ressent la même chose, mais franchement, moi, c'est cette impression que j'ai. Il y a un côté, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Et puis, alors, je l'ai senti d'ailleurs, je l'ai senti au moment de la parution.
On vous a fait des remarques là-dessus ?
On m'a dit, est-ce que tu es sûre que ça va intéresser les lecteurs ? Franchement, est-ce que tu es sûre que ça va intéresser les lecteurs ? En l'occurrence, je ne vois pas pourquoi ça ne les intéresserait pas, mais ce n'est pas un sujet facile, clairement. J'ai fait ce que j'ai pu.
Non, et ce que vous traduisez, je pense, assez bien, Laurence Biava, c'est l'espace-temps très court où tout se décide d'une vie. C'est presque comme dans la tragédie grecque où on parle, vous voyez, on part sur la route et puis votre vie passée, paf, c'est déjà très... Vous dites, c'est toujours, en gros, le même scénario, c'est du tableau. En quelques heures, ceux qui doivent fuir perdent leurs liens et leurs repères et dans la plupart des cas, héritent des vies brisées.
Ouais. Donc, il y a un côté bipolaire chez cet homme, très cyclique, effectivement. J'ai aussi travaillé sur la partie spatio-temporelle, on évolue avec quelqu'un qui a des cycles courts.
Voilà, c'est ça.
On est dans le cycle court et on change rapidement de cycle. Mmh. Il y a une scène, je ne sais pas si elle vous a marqué, une scène ou deux, où effectivement, il se lève en sursaut, il a un trouble identitaire, réellement, un trouble de la personnalité.
Oui, mais il n'y a pas que ça.
Il n'y a pas que ça.
Il y a, si vous voulez, en dehors de ça, parce que moi, je veux dire, avec tout son passé, il y a de quoi se sentir très bien dans sa vie, ou du moins de poser quelques questions. Mais il y a ce côté où il y a comme une sorte de... Vous voyez, en musique, il y a des intervalles, voilà. Il y a des... Je ne suis pas musicienne, mais il y a des temps de pause, il y a des intervalles. Il y a un moment où, hop, on part dans une sorte de vertige où tout peut être possible. Et ça, vous le rendez très bien. Vous parlez d'un moment donné, un saut dans le vide, bien souvent sans espoir de retour. Donc, hop, le temps vous aspire. Les circonstances sont là et elles vous captent. Et ça, c'est...
Il y a quelque chose de physique dans ce livre. C'est physique, il y a quelque chose de physique. Le protagoniste principal est sujet réellement à des troubles physiques, comportementaux, au niveau de la personnalité. Alors peut-être que, en l'occurrence, je connais plutôt bien ça dans ma vie privée et peut-être que ça ressurgit aussi dans ce que j'écris. J'ai besoin, c'est pour ça que je me permettais de parler de morphopsychologie. Oui. Il y a beaucoup de morphopsychologie.
C'est-à-dire ?
Eh bien, il y a beaucoup de... Je suis l'expression de mon intériorité. Je change souvent de prénom parce qu'à un moment donné, précis, je vais me sentir en adéquation avec moi-même, avec ce prénom, etc.
Dis-moi,
dans cette situation, etc. Ça, je veux pas...
C'est un jeu de rôle.
On va pas faire c'est pas de la masturbation intellectuelle non plus, évidemment pas. Non. Mais effectivement, il y a quand même, on n'est pas. Cet homme est en effet victime d'un jeu de rôle.
Ouais. Alors vous dites, Pablo est devenu un autre homme. Il vit dans un présent métissé avec un lourd passé, mais le présent construit et devient. Est-ce que ce roman, Laurence Biava, vous a changé ? Est-ce que vous sentez après les... Parce que je sais qu'il y a eu plusieurs étapes sur lesquelles on ne va pas revenir d'édition de ce roman.
Est-ce qu'il m'a changé ?
Est-ce qu'il vous a changé ?
Il m'a secoué. Il était temps que j'en finisse l'écriture. Il m'a secoué, il m'a demandé énormément de temps. Il m'a changé quand même un peu. Il m'a un petit peu changé, ouais. Non, même s'il y en a eu d'autres depuis, il y en a eu un sur Tennessee Williams.
C'est votre combientième roman ?
Ça, c'est le 18e.
18e, c'est le 18e.
Alors, il y en a deux qui sont numériques, attention. Donc, version papier, il y en a 16. Sinon, il y en a deux. Ce sont ce qu'on appelait, il y a quelques années, des duettos qui avaient été publiés par une maison d'édition qui n'existe plus.
Avec Dominique Guillou, je crois.
Mais c'est pas pour la peine de revenir dessus. Mais c'était des mini-livres de 50 pages. C'était numérique. Ça s'est terminé avec beaucoup de regrets, parce que je trouvais ça plutôt bien. Non, c'est concrètement le 16e... dans les librairies en version papier.
Est-ce que on pourrait penser à une pièce de théâtre aussi ? Est-ce que vous pensez à le... Ah, ça pourrait être joué sur
Non, honnêtement, non. Enfin, je...
Non.
Personne, en tout cas, ne m'a contactée pour me dire, tiens, ton livre, ton roman devrait être adapté au théâtre.
Mmh. Bon.
Vous lancez une piste d'investigation.
Ben voilà, voilà.
Pourquoi pas,
on sait jamais. Pourquoi pas, réflexion. Vous savez, la vie est faite de pourquoi
pas. Non, mais pourquoi pas. Si quelqu'un, si un metteur en scène un jour vient me voir en me disant, ah, tiens, tu sais, ton livre, je suis capable de le mettre... De le mettre en scène au théâtre, après tout, pourquoi pas. J'avoue que ça ne m'a absolument pas traversé l'esprit.
Est-ce qu'il y a un temps de la documentation et un temps de l'écriture, Laurente Biava? Est-ce que vous mêlez les deux?
J'ai mêlé les deux. Je suis très client de la grande bibliothèque municipale de Versailles, parce que j'habite à côté, donc ils me connaissent plutôt bien. C'est là où j'ai mené toutes mes recherches, ma documentation, mes enquêtes, etc. Non, j'ai pas écrit ce livre à la légère, évidemment. Non.
Ouais. Et comment écrivez-vous alors? Comment écrivez-vous? Ordinateur. Carnet aussi.
Non. Alors beaucoup de petits carnets. Je prends des notes rapides, mais je n'écris pas sur carnet. Je n'écris pas sur cahier. J'écris sur mon clavier d'ordinateur, tout simplement. Et j'écris tard le soir, jusqu'à parfois 1h du matin. Mais je n'écris pas plus d'une heure et demie par jour. Parce que j'ai aussi autre chose à faire. Je suis mère de famille, donc voilà. Mais
et vos admirations littéraires, quels sont les écrivains que vous admirez?
Il faut que je dise vraiment ce que je pense.
Bah écoutez, ceux que vous aimez. Est-ce qu'il y a les écrivains d'Amérique latine, ça vous a séduit?
J'aime beaucoup Pablo Neruda. J'aime bien les auteurs. Je lis peu de littérature étrangère, malgré tout. Je lis beaucoup de littérature française. Actuellement, comme je chronique, et pour Actualité et pour Atlantico, je lis actuellement entre 10 et 15 livres par mois, ce qui n'est pas mal.
Ce qui est pas mal, oui.
Ouais. Et c'est vrai que je lis à peu près... Là, j'ai commencé à lire toute la rentrée littéraire 2025. Je suis très, très agréablement surpris. Là, ces 6 derniers mois, j'ai lu quelques chefs-d'œuvre, oui. Non, mais concrètement, j'aime bien Jean-Christophe Ruffin, j'aime bien Michel Houellebecq, j'aime beaucoup Frédéric Beigbeder, j'aime beaucoup Nicolas Fargue, j'aime beaucoup Jean-Marc Parisi.
Donc voilà, vous êtes...
Je suis plutôt littérature française et moins étranger, mais...
La dernière phrase, c'est toujours important dans un livre, dans un roman. Adieu, il est grand temps pour moi de passer la porte. Cette dernière phrase est importante. La première et la dernière phrase de votre roman était.
Vous trouvez que c'était. Ouais.
Est-ce que c'est important?
C'est une autre porte.
C'est une autre
porte. C'est encore une autre porte.
Ça veut Adieu, dire, il est grand temps pour moi de passer la porte.
Il est temps de passer la porte. C'est-à-dire, j'en ai fermé une, j'en ai rouvert une autre. Et celle que j'ai rouverte, je la ferme à nouveau et je continue ma route, quoi.
Ouais.
Voilà, je continue ma route.
La création, on a encore quelques minutes, la création du prix Rive Gauche à Paris, ce côté-là, de vouloir défendre la littérature en créant des événements.
C'est très important pour moi parce que ça permet à des auteurs et à des éditeurs de se rencontrer et de se lire. J'ai réalisé ça, j'ai créé le prix Rive Gauche à Paris il y a 15 ans. Il y en a maintenant 5, si je peux les citer. Rive Gauche à Paris du roman français, Rive Gauche à Paris du roman étranger, Rive Gauche à Paris de la revue littéraire, Rive Gauche à Paris de la nouvelle créée l'année dernière, puisque j'ai commencé à déposer à lancer des concours en ligne, des concours de nouvelles, et aussi un prix qui n'existe nulle part, le prix Rive Gauche à Paris de la couverture de livres, parce que je trouve que c'est important de réaliser aussi, de récompenser les graphistes, les photographes, tous les gens du milieu éditorial. C'est important. J'ai créé le prix des savoirs, j'ai créé le prix des droits des femmes.
Ça, c'est très important.
Ouais. Et j'ai créé avec le partenariat et la complicité de mon ami amie Marianne Jéglé, aussi, que j'ai plaisir à citer, qui est une, que vous connaissez peut-être, qui est aussi une très bonne écrivaine, qui est responsable, qui a une, des responsabilités importantes à l'EF Écriture. Nous avons créé, en partenariat également avec le prix Rive Gauche à Paris du roman français, nous avons créé le prix Aleph du roman français, qui a cette singularité d'avoir la même sélection que le prix Rive Gauche à Paris du roman français. Mmh. Et donc là, on recommence fin août.
Voilà, donc ça va être pour la fin 2025.
J'imagine. Ça va être fin 2025. Hein, voilà.
Bah écoutez, merci beaucoup.
Merci Valère. Vous avez beaucoup de sensibilité, beaucoup d'acuité. C'est très agréable de discuter avec vous.
Merci en tous les cas pour Les Exilés. C'est un roman. Ça vient de paraître aux éditions Labyrinthe. Et puis, comme je dis tout le temps, on peut lire d'autres livres de vous. Je trouve que celui qui était paru au Mercure de France aussi, on peut le trouver toujours en librairie. Le goût de la bibliothèque.
Alors, le goût des bibliothèques. Et je me permets de signaler que le goût de l'écriture marche particulièrement bien.
Oui.
Puisqu'il en est à sa deuxième ou troisième réédition. Sauf erreur de ma part, si Isabelle Gallimard m'entend, qu'elle ne me gronde pas si je dis des bêtises, mais je crois qu'il marche, très très bien.
Voilà, on peut aussi lire le goût de l'écriture et le goût des bibliothèques, et je crois que vous avez un site internet où on peut suivre vos activités.
Donc, oui, qui a été refait à neuf, www.laurencebiava.fr.
Voilà. Merci beaucoup Laurent Viada.
Merci
pour
Valère.
Les Exilés, un roman chez Labyrinthe, et on fait une pause musicale. Voilà, tout arrive.
Chopin par Samson François.
Vous êtes bien sûr Radio Libertaire 89.4. Vous écoutez Bibliomanie en présence de Laurence Biava qui vous a tout dit sur Les Exilés, son roman qui vient de paraître aux éditions Labyrinthe. Et nous allons parler avec Jean-Yves Clément de L'Exil de la Pensée. C'est un petit livre qui vient de paraître aux éditions Le Comte d'Authière. Jean-Yves Clément, bonjour.
Bonjour. Oui.
Alors c'est vrai... Dans votre livre, c'est comme un petit passeport, j'allais dire. Livre-vie. En dessous, il y a un sous-titre. L'exil de la pensée, livre-vie.
Oui.
C'est assez volontaire. Vous avez...
C'est une sorte de... Ben, c'est l'idée qu'il est temps un jour que la pensée recouvre la vie, précisément, et que les deux fusionnent et vivent pas des chemins parallèles, comme très souvent, en quêtant je ne sais quelle gloire ou reconnaissance, mais que tout ça dise la même chose et aille vers le même endroit, en fait. C'est ça l'idée, que l'écriture épouse vraiment la vie, sinon c'est pas la peine. Enfin, notre vie, sinon ça sert à quoi, en fait, d'écrire? C'est se mettre soi-même en mots, précisément. C'est un peu, il y a un côté un peu autoportrait, et précisément dans les aphorismes ou les pensées, puisque c'en est.
Alors, c'est un livre court, enfin c'est un livre dense, dense en même temps.
C'est pas qu'il est court, c'est parce qu'on peut pas cultiver, à mon avis, des milliers d'aphorismes en même temps, sinon le champ devient un peu, peu ragoûtant. Vous voyez, il faut qu'il y ait quand même une trajectoire, là il y a un axe, il y a deux parties, et pour que tout ça soit un peu cohérent, ça peut pas s'étendre à l'infini. Mais j'ai fait d'autres recueils avant d'aphorismes, c'est un peu une forme assez naturelle chez moi.
Oui, bien sûr. Alors il y a deux parties, il y a des, donc on pourrait dire avant l'exil, justement, donc il y a des notations. Alors moi j'ai pensé à la thématique de la variation. La variation, ah
ben ça,
musique.
C'est complètement ça. La deuxième partie, en tout cas, c'est précisément
ça. Et la deuxième partie, donc, qui concerne l'exil de la pensée, donc variation, là, c'est pas numéroté. Donc, dans la première partie, on pourrait parler d'haïku, d'ailleurs, sont numérotés. Et puis, après,
s'y retrouver, mais dans la mesure où la seconde partie peut se suivre, s'enchaîne, précisément comme des variations d'un thème, je trouvais ça plus cohérent et plus fluide de pas les numéroter, de pas les isoler. Les trop les uns des autres, ces îlots. Alors que la première partie sont plutôt des notations, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme en vrac, comme dirait Pierre Reverdy, qui a écrit un recueil comme ça d'aphorismes qui porte ce titre. Donc, où tout se mêle et un peu toutes les formes d'aphorismes se mêlent aussi. Maxime, sentence ou jeu de mots, tout ce qu'on veut. Voilà, mais alors que la seconde partie, c'est vraiment un essai d'écriture. Qui pousse le bouchon beaucoup plus loin, cette tentative un peu folle de varier un thème et que le thème soit un mot. En fait, c'est à défaut d'être musicien, comme disait Nietzsche, j'ai fait ce bouquin faute de mieux. Il disait ça à propos de Zarathoustra ou autre chose. Mais moi, j'écris des aphorismes faute de mieux, faute d'être musicien. Et l'aspiration suprême, quasi malarméenne, à ma façon, ce serait qu'il se transforme en musique. Mais en musique avec des mots. Alors tout ça paraît complètement impossible et idiot. Mais la gageure, c'est ça. Donc dans la deuxième partie, le mot exil, en fait, est varié. C'est-à-dire que toutes les phrases, c'est quand même des aphorismes, des formules à chaque fois, doivent contenir le mot exil ou exilé ou exilant. Ça, c'est un peu le parti pris. Donc il y a un jeu d'écriture qui va jusque-là.
Alors c'est presque comme la quintessence, vous allez jusqu'au bout des mots, si on peut dire. Alors je veux citer les trois, comme j'ai fait pour Laurence Biava, je vais citer les citations qui accompagnent votre livre. Citation Jules Renard, j'adore Jules Renard, ça tombe bien. La vie ne fait pas un livre par jour, voilà. Max Jacob, la vie est un livre suffisant. Et Joseph Joubert, ce n'est pas ma phrase que je polis, mais mon idée. Je m'arrête jusqu'à ce que la goutte de lumière dont j'ai besoin soit formée et tombe de ma plume. Ça, j'avoue que Joubert est vraiment...
Mais j'ai l'impression d'appartenir à une chaîne un peu de penseurs, moralistes, poètes qui tous ont écrit court, des aphorismes, des formules, des sentences. Joubert est très méconnu, alors que pour moi c'est un pur génie, mais redécouvert un peu grâce à son ami Chateaubriand d'ailleurs, et qui avait aucune prétention littéraire, qui tenait ses carnets, qu'on a encore une fois exhumé plutôt après sa mort. Les autres sont des amis de style, je dirais, mais il y en a plein d'autres que je cite, je pense d'ailleurs au début dans l'introduction, que ce soit Lichtenberg, Nietzsche, je l'ai déjà dit, ou même, pourquoi pas à sa façon, René Char. Vous voyez, évidemment, les Vauvenargues, les autres Champfort, il y a toute une chaîne de gens qui estiment qu'il ne sert à rien de penser long, si je puis dire.
Oui.
Le défi, c'est d'essayer de mettre en quelques mots ce qu'on mettrait ou qu'on ne mettrait pas en plusieurs phrases. Parce que la longueur étiole les choses. Et c'est précisément ce que la musique m'inspire. La musique se permet pas de se diluer, de s'allonger pour rien. On peut le faire dans un roman, mais ça, comme ça, et finalement on y voit goutte. Mais dans une symphonie, ce serait impossible. On n'imagine pas un musicien tout de suite. C'est plus un professionnel, c'est plus un vrai compositeur. Donc il faut développer le moins possible. Et la musique apprend le sens de l'économie. Chopin qu'on écoutait, Ravel sont des gens pour qui il y a toujours une note de trop quelque part. Mais moi, c'est ça. J'écris en pensant qu'il faut pas qu'il y ait un mot de trop.
Et est-ce que ce sont donc des fragments, des arrêts sur image?
Oui, tout ce que vous voulez, en fait. Ça peut prendre la forme qu'on veut. On dit très couramment des aphorismes, mais il y a plein de façons d'écrire des aphorismes. Ce que moi je récuse, c'est la monotonie du genre. Parfois, telle qu'on la trouve, même dans des gens illustres, comme la Rochefoucauld, je trouve qu'au bout d'un moment, c'est monocorde. Mmh. La voix est toujours la même, et aussi géniale soit-elle, on peut s'y ennuyer. Alors, ce qu'il faut, c'est essayer de casser les rythmes, d'avoir peut-être un peu d'humour aussi, de temps en temps, plein de choses. Il y a plein de façons d'économiser sa langue.
Alors, tout à l'heure, je parlais de Vladimir Yankelevitch, lui, il parle de vérité insulaire de l'aphorisme.
Ah oui, parce que lui, c'est un penseur de la musique, Yankelevitch. Mmh. Non seulement il est né à Bourges, mais en plus, il était penseur de... Il écrit des merveilleux ouvrages sur Ravel, Fauré et d'autres, et sur Chopin, tout ce qu'on veut. Il était pianiste, il déchiffrait des partitions. Donc, il savait ce que c'est que de pas parler pour rien dire, d'éviter à tout prix ça. Aussi bavard soit-il, tous ses mots étaient mesurés, comptés, et il avait le goût, en musique, des formes courtes, les préludes de Debussy ou d'autres choses. La musique est l'art du coup, encore une fois, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Les symphonies, les choses plus développées, font figure d'exception. Mmh. On connaît ce mot célèbre de Debussy, qui sort d'une symphonie de Brahms ou de quelque chose d'équivalent, que j'adore par ailleurs, où il dit « fuyons, il développe ». Ben, c'est un peu ça. Nous, enfin moi... Avec les mots, il ne faut pas que je développe dans cet exercice-là.
Alors, je vais vous citer. Bon, c'est vrai, moi, je pense à des haïkus, parce que voilà, il voulait mourir vivant. Donc, ça, c'est 35. La plupart étaient morts, mais n'en savaient rien. Ça, c'est le 39. 75, la mort l'avait arrêté en flagrant délit de vie. 78, ma seule église, c'est la vie. Donc voilà, c'est des.
C'est drôle, vous avez choisi une même tonalité qui doit dire quelque chose de vous. Ben parce que les quatre. Oui, c'est ça, parce que les quatre se brodent un peu un même thème.
Oui, voilà, c'est parce que c'est. Alors, c'est. On pourrait parler d'élixir d'eau de vie, presque. C'est du con, c'est comme un parfum.
C'est bien vu, mais
c'est
ça.
C'est comme un parfum.
Mais j'aime bien élixir aussi.
Élixir
aussi. Oui, vous avez parlé de quintessence tout à l'heure. Oui, c'est ça le défi. Mais avec légèreté. Si on pèse, on se plante, si je puis dire. Il faut vraiment essayer d'être à la fois humble et vraiment la légèreté. C'est grec, était superficiel, comme dit Nietzsche, par profondeur.
Est-ce que ce livre, L'exil de la pensée, Jean-Yves Clément, arrive à point nommé dans votre vie? C'est-à-dire que, est-ce que ça... Je suppose.
Justement, dans ma vie. C'est-à-dire que je pense peut-être pas aujourd'hui comme j'aurais pensé il y a 25, il y a 30 ans. Quoique je cultivais déjà un peu l'aphorisme de pareille façon. Mais là, il y a vraiment cette idée avec le thème des variations d'essayer d'aller encore plus loin dans cette espèce de transformation alchimique des mots pas en notes, mais en musique. Et il est là, l'exil, dans cet ailleurs, cette quête d'une espèce d'au-delà, de passer par-delà le miroir et de pas faire des mots pour des mots, même si des fois on peut sembler le faire, et même l'humour peut laisser croire ça, mais mon ami Nietzsche, par exemple, était un grand humoriste à sa façon.
Bah, il faut de l'humour.
L'un n'empêche pas. Il faut surtout briser l'esprit de pesanteur. Mmh. Nietzsche, à un moment, dit « Qu'est-ce qui caractérise un esprit de poids, de point ? Il coule toujours plus profond. » Je pense que, voilà, on sent à qui il s'adresse.
Ouais. Est-ce qu'on peut parler d'instantané ? Comment vous avez écrivé ? Comment
c'est
venu ? Est-ce qu'il est dans des petits carnets ? Vous reprenez ? Vous laissez ?
Oui, enfin, il y a mille façons. Il n'y a pas de méthode, ni de règles, ni il y a toujours mieux à faire qu'à écrire, des fois, dans sa vie. Donc, ça vient pas. Mm-hmm. Enfin, si j'ai des travaux, j'écris des essais, chez Actes Sud sur la musique, ça, là, c'est différent. Mm-hmm. On s'installe, on travaille, voilà. Mais ça, c'est bien, ça, on les glane. C'est comme Gobineau, là. On butine sur les surfaces. Il dit dans les Pléiades, à un moment, c'est un peu ça. On est des abeilles. On va chercher le nectar. Ça pourrait être aussi.
La métaphore.
Voilà. En fait, je fais ça depuis que j'ai une vingtaine d'années, moi. Ça m'est venu tout seul. Ça coïncidait avec ma découverte de Nietzsche, mais je pense pas que Nietzsche m'ait il m'a influencé, évidemment, forcément, mais. J'ai pas cherché à imiter quoi que ce soit. Je l'ai rencontré parce que je sentais que c'est ça qu'il me fallait, que c'était ma forme naturelle d'expression. Pas la seule, mais c'en est une.
Voilà, la bonne pointure, comme on dit. Alors, c'est drôle parce que George Sand, qui elle n'est pas du tout dans l'esprit de la... Elle est plutôt dans le long fleuve. George Sand, voilà ce que vous écrivez sur George Sand. Alors ça, c'est l'aphorisme 107, c'est avant l'exil de la pensée, donc en première partie de votre recueil, Jean-Yves Clément. George Sand a su peindre en mots brefs l'étendue de son cœur et fondant dans le même geste les paysages de son Berry et ceux de son âme. La poésie la plus pure et aussi la plus incarnée, c'est ce qu'il faut affirmer aux étriqués poètes de la pensée. Aux étriqués poètes de la pensée. Et là, on dirait que vous étirez la phrase, le concept.
Parfois, il faut un petit peu s'étendre quand même.
Oui.
Mais surtout quand on parle d'un phénomène comme George Sand. Pour moi, elle est unique, elle est phénoménale et pas simplement comme écrivain d'ailleurs. Cela dit, il y a beaucoup, pour revenir sur ce que vous disiez, chez elle, beaucoup le sens de la formule, de la phrase, de la sentence, qui fait mouche, elle l'a aussi beaucoup. Et tous les romantiques, son ami ami Flaubert et d'autres l'ont volontiers. Donc on peut retrouver ça chez elle beaucoup. Il y aurait un recueil de pensées à faire de George Sand.
Oui, sans problème. Sans
sur tous les thèmes. Hein. L'humain, la botanique, que sais-je, parce qu'elle a couvert tout le spectre de la création. Parce que elle, vous voyez, et ça c'est le privilège souvent de la femme sur l'homme, elle était par nature entièrement dans la vie, avant d'être dans les lettres. Mmh. Et c'est là où est Dame Le Pion à Flaubert, dans leur correspondance célèbre, que j'ai republiée,
oui,
au passeur.
Récemment.
C'est la façon dont elle lui donne des leçons en permanence en disant « Oh, tu nous agaces, toi, avec ton art pour l'art, là, il faut vivre, arrête un peu, ça se passe pas comme ça, faut mettre la vie dans les livres et pas oublier ta vie. » Voilà, et elle est incroyable. Ça. Et Flaubert entend tout ça quand même, et il est pas du tout en révolte contre ses propos. Au contraire, il l'adore. Il pleure à son enterrement à Nohant. Enfin,
oui. Mais là, on sent, c'est que vous adaptez cet aphorisme à la nature même de l'écriture de George Sand, qui est...
Oui, absolument, c'est exactement ça. Oui.
On sent qu'il y a une osmose, enfin,
oui,
je veux dire...
Oui, oui, voilà, oui. Bah, y a un amour, quand on est amoureux de quelqu'un, par son âme, hein,
oui.
Quelque chose comme ça. Donc je l'aime beaucoup, donc je me mets à écrire un peu comme elle, c'est ça que vous voulez dire.
Oui,
il y a un côté caméléon dans l'aphorisme aussi, ça peut être ça. Si je parle de Chopin, je sais que je parle de Chopin, de Beethoven, il y a des choses comme ça par moment, il y a quand même des choses sur la musique. Évidemment, je les entends.
Mais on dirait que vous ouvrez un espace-temps,
oui,
qui est celui de George Sand. Oui, voilà, cet espace-temps qui est très particulier.
Oui.
Alors après, bon, il y a 122, par exemple, ce sont ceux que le monde a failli briser, qui finissent par le sauver. Bon, voilà. Et puis, ce que j'aime bien, donc on a parlé de la variation. Voilà ce que vous écrivez. Les mots ont leur pays, la page en dessine la carte, les mots ont leur musique, portée par une variation continue. Le thème en est l'écriture, l'énergie qu'elle génère et qui la rend neuve à chaque variation. Le thème en devient ainsi sa quête, celle qui fait œuvre, la musique elle-même, par sa transformation comme Beethoven la nomme, sa fin en est alors le début, car il n'est pas de début. Il n'y en a jamais eu. Donc vous progressez, oui, dans la phrase, c'est un exercice assez fin.
C'est l'avertissement, ça, un peu,
oui,
du thème et variation. Voilà,
variation.
Il faut montrer qu'en fait, le thème en musique ailleurs n'est que prétexte.
Oui.
On s'en débarrasse, on s'en fiche vite du thème. Par contre, c'est comme en chimie, le catalyseur. Vous savez, mm-hmm. Il est là dans l'opération, il participe, mais en fait, il reste indemne. Et puis, surtout, il n'a pas d'importance en soi. Le thème non plus, le thème est prétexte. J'aime bien cette notion de prétexte dans tout.
Et puis de penser, dites donc, Jean-Yves Clément, de penser, l'exil de la pensée, c'est, oui, chaque phrase doit nous faire penser.
Mais oui, non, mais moi j'ai un parcours de philosophe, de toute façon, j'ai fait des études de philosophie, donc la musique, la philosophie, donc il s'agit bien de penser, mais pas de croire trop en la pensée. Je préfère croire en l'art ou en des notions, l'amour, tout ce qu'on veut, des choses un peu métaphysiques, comme vous disiez, pourquoi pas, plutôt qu'en la pensée. Parce que si on croit qu'à la pensée, on est souvent, ça, on tente à la raideur de l'esprit. Le cérébral pur, c'est une prison et un danger grave, je pense.
Peut-être y a-t-il plusieurs pensées.
Vieillir, aussi... c'est se dégager du cerveau.
Oui.
C'est habiter plus le corps et tout ce qui nous entoure. Mmh. Oui, c'est une pensée... Nietzsche m'a appris beaucoup ça.
Oui.
C'est-à-dire, le corps est une grande raison, dit Zarathoustra. Mmh. Voilà. Et le cerveau est une partie du corps, mais...
Ah, bah, intéressante aussi, quand même. Hein. Pas mal,
ah, bah, très intéressante, très intéressante, mais qu'on ne doit pas isoler du reste et couper du reste.
Non. L'intuition, pour vous, c'est important, Jean-Yves Clément, d'aller,
oui,
au bout de l'intuition.
Oui, je suis très intuitif. Oui,
quand vous choisissez un premier aphorisme, l'ordre a son importance.
Oui, enfin, quand ils sont en vrac, comme ça, un peu moins, mais quand même, ils doivent résonner les uns par rapport aux autres. Le premier est bien le premier, le dernier est bien le dernier.
Mmh.
Et donc, il y a quand même un ordre, mais un ordre relatif, pas un ordre absolu.
Bien sûr. Alors, variation. Le cœur n'est pas nécessairement... Alors, variation 5 n'a pas besoin nécessairement de l'art pour se manifester. Il est lui-même la manifestation la plus directe du ciel invisible. Dans La Belle et la Bête, Cocteau nous enseigne qu'il se situe au-delà de toute apparence, même la plus flatteuse, qu'il est aussi éternel et friable que les bijoux créés par la bête à l'attention de la belle. J'aime bien cette image. On y est, là, ça y est.
Oui.
On est dans ce film merveilleux de Cocteau.
Oui, oui.
On y est.
Alors, le ciel invisible, c'est un peu une invention à moi.
Oui.
Je pense que c'est quelque chose qui nous entoure en permanence, une espèce de fluide. Je ne sais pas si c'est le divin, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est toujours là. C'est ni en bas, ni en haut, ni je ne sais pas quoi. C'est pas dans l'espace. l'espace dans le lieu, comme vous disiez, l'espace-temps, pour moi, c'est un problème. La musique, c'est quoi l'espace-temps de la musique? Comme dit Wagner, le temps devient l'espace, ou il dit l'inverse, je ne sais plus, dans Parsifal, mais tout se confond. Et l'espace invisible est ma métaphysique, le ciel invisible, pardon, excusez-moi, c'est quelque chose qui est... Voilà, il est bien question de ciel, mais c'est un ciel immanent, en tout cas, c'est pas un ciel transcendant.
Bah, c'est en tous les cas, il y a cette notion de décor, il y a cette notion d'arrière-pays. Voilà, je cherchais le
oui,
mot.
Si on veut,
on va, là, voyez, je vois l'image, la belle image.
Arrière-pays, j'aime bien, mais pas arrière-monde, parce qu'arrière-monde, c'est ce que l'expression que prend Nietzsche pour condamner les gens qui disent oh, ça sera bien quand on sera mort, en attendant, on s'y prépare. Ben non, il faut que ça soit bien tout de suite.
Non, c'est tout de suite, moi.
Voilà,
arrière-pays.
On est d'accord.
En plus, alors ça aussi, ça, c'est très... son cœur nu ne s'habillait que plus que d'elle. Donc voilà, ça c'est. Alors, votre définition de l'écriture, Jean-Yves Clément? La fin d'écrire n'est pas d'écrire, mais plutôt son contraire. Ça, c'est...
oui, mais ça, c'est la quête, c'est le paradoxe. Vous savez, c'est le paradoxe de la
musique.
Vous
êtes un pêcheur de paradoxes.
Oui, j'aime beaucoup la notion de paradoxe, comme la notion de prétexte. Qu'est-ce que cherche la musique pour vous? Elle cherche le silence, finalement.
Ouais.
La quête paradoxale de la musique, c'est le silence.
L'intériorité.
Les plus belles des musiques sont hantées par le silence.
Mmh.
Et finalement, on cherche à mettre en peinture et en musique le silence lui-même. Ce qui semble une absurdité, mais en fait, c'est ça. Donc, on part du silence pour aboutir au silence. Entre-temps, il se passe plein de choses. La sonate de Liszt, qui est un chef-d'œuvre pour le piano, bien connu des amateurs, etc., part précisément du silence. Liszt arrive à figurer le silence au sens propre, puisqu'il part sur un soupir, et on entend bien, par le jeu des syncopes, qu'il y avait un silence avant, ce qui est un prodige. Et à la fin, on entend à nouveau, par d'autres prodiges, un silence. Mais c'est un autre type de silence. Entre-temps, il s'est passé 30 minutes de délire musical et pianistique pour en arriver là. La même chose. C'est à la fois la même chose et pas la même. C'est comme Verlaine, hein, la même et pas la même, je sais plus quoi, l'amoureuse, là.
Oui. Alors, le style est une maison que l'on construit autour du lecteur et qui le tient enfermé loin de chez lui jusqu'à la fin du livre. Ah, mais là, on n'est pas enfermé, hein, dans vos, je dirais presque l'aphorisme.
L'enfer, c'est l'enfermement, je dirais, justement. Donc,
votre recueil d'aphorismes. On ne se sent pas enfermé, c'est un peu l'intérêt aussi de la phrase courte du fragmentaire. C'est un peu comme
la quête, c'est l'ouvert, c'est exactement son contraire.
Voilà.
C'est l'ouverture. C'est pour ça qu'il faut être dans la vie et pas dans l'écriture, où il faut être dans l'écriture de la vie, parce que sinon l'enfermement est toujours proche. On vit dans des boîtes, comme disait Pierre Rabhi, que j'ai un peu connu, on passe d'une boîte à l'autre dans la vie souvent, hein, et on finit dans une boîte. Hein. C'est qu'une question, mais où sont les clés, en fait
Alors vous dites d'ailleurs, de la qualité de l'écrivain dépend la qualité des murs. Écrire pas penser est une manière déroutante de ne pas verser dans le roman de soi. En reste l'essentiel, sa peau et ses viscères aussi, ce que l'on nomme le style.
Ah oui, alors ça c'est... Oui, c'est ma vraie quête, c'est peut-être celle du style. Mmh. Le style pur permet d'arriver à la musique. Hein. Oui, le style. L'écriture, c'est du style, que du style, oui.
Et comment le repérez-vous, vous qui êtes...
Nietzsche dit, pardon, dans Le Gai Savoir, corriger le style, c'est corriger la pensée et rien d'autre. Je trouve que tout est dit. Parce que c'est que si on fait bouger le style, si on ne sait pas ce qu'on fait quand on emploie le mot, quand on a soi-disant du style, bah, la pensée déraille aussi en même temps. Tout ça, c'est prodigieusement lié.
C'est lié à l'exactitude, à l'authenticité.
C'est plus que ça, c'est exactif. Oui, c'est une forme de précision, mais une forme de précision musicale, je dirais. Vous voyez, là, il faudrait Yankelevitch pour dire des choses comme ça, très subtiles. Vous voyez, on comprend. Lui avait un style incroyable. Lui, c'était une vraie musique chantante. Et même quand il parlait, d'ailleurs, il ne parlait pas, il chantait.
Il chantait.
Cet homme. Mais parce qu'il savait ce qu'il disait à chaque moment, dans le contrôle total de sa phrase et de sa pensée. Et c'est ça, le style.
Alors bon, 168, l'amateur d'aphorisme est celui des commencements. Et il n'est rien de plus beau que ces aurores où se tendent toutes les forces de vie. La beauté s'y tient dorée dans son émergence comme en un miroir sublime. C'est celui des commencements, c'est vrai, parce que chaque...
Des aurores.
Oui. Ça rejoint Georges Sand, entre autres. C'est-à-dire que chaque pensée, chaque fragment peut ouvrir la porte d'un autre livre.
Oui, puis ça suffit, les commencements, en fait. C'est déjà des mondes en soi. Il n'y a pas besoin, très souvent, encore une fois, d'aller plus loin. Il faut inventer un autre commencement. C'est comme un autre jour. Une pensée... C'est pour ça que Jules Renard disait « La vie ne fait pas un livre par jour ». Je trouve ça génial, mais elle peut faire une pensée par jour. Mais la prétention qu'on va... Vous voyez, un livre par jour, ça veut dire qu'on veut enfermer la vie dans le livre. C'est ça qui veut dire Jules Renard. Ça ne va pas.
Sur le silence aussi, voilà ce que vous écrivez, Jean-Yves Clément. Liszt comme Rimbaud ont mis à bas leur propre langage jusqu'à le rendre définitivement silencieux.
Oui. Donc, oui, je pense que la fin de... C'est pour ça que Rimbaud a arrêté. C'est que de toute façon, après, c'était bon. Il a vu la fin du voyage des mots, de ces mots. Et Liszt aussi. La fin des les dernières œuvres de Liszt sont des odes au silence. Donc on peut s'arrêter là. Il y a quelque chose à trouver. Et puis après, il faut aller cultiver son jardin. On peut pas passer sa vie à créer non plus, forcément. Hein.
Non.
Enfin, à créer sa vie.
À créer sa vie
mais pas à créer puis vivre à côté comme si tout ça était étanche.
Ah, c'est pas étanche, forcément.
Bah oui, Nietzsche le dit, vous le dites, mais il y en a beaucoup qui pensent que...
Alors, sur la musique, justement, alors là, Chopin, voilà, c'est un aphorisme aussi presque un peu plus long que pour George Sand. Écouter Chopin, c'est comme retrouver un chemin et ses buissons familiers après un voyage dans un environnement étranger. Je retourne au milieu d'une nature dont je connais le moindre aspect, dont je pourrais parcourir chaque sentier qui parfois me lasse par trop de fréquentation et dont je m'écarte alors, mais qui me ramène à elle inexorablement. Je ne saurais longtemps m'en passer, car elle est mon sol naturel.
Oui,
donc voilà.
Oui, j'ai une proximité très forte avec Chopin, sur lequel j'ai beaucoup écrit. Voilà, je dirige le festival de Nohant, donc c'est pas pour rien. Et voilà, et très étrange en même temps. Chopin étant le moins bavard des musiciens, précisément. Le plus elliptique, celui sur lequel on sait pas quoi dire, tellement il est étranger à tout, et étrange lui-même, et merveilleusement pur. Et en fait, c'est celui qui me fait quand même, ailleurs qu'ici, le plus écrire. Donc pour moi, c'est un paradoxe, voilà, un autre, et un mystère, mais c'est comme ça. Sur Chopin, j'ai envie d'écrire, je peux écrire, je sais écrire, et pourtant, il semble, lui, interdire tout ça. Vous voyez, à côté d'autres compositeurs qui seraient plus littéraires, on va dire. Mais c'est ça qui, sans doute, m'excite, m'intrigue, et puis peut-être qu'il veut que j'écrive sur lui, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est cette impossibilité de sortir de ses notes pour mettre des mots dessus qui, au contraire, favorise les miens.
Est-ce que c'est... fragments, c'est aussi des parcelles de territoire. Je pense au Berry. Vous êtes originaire du Berry. Bah oui, la terre,
oui,
la nature,
non,
la nature est présente. La couverture de votre livre, c'est quand même... Il y a le ciel et il y a la nature. Enfin, y a des...
Je pense que le sens de la vie est une incarnation la plus prolongée possible, mais peut-être que cette prolongation a à voir avec la façon dont on s'incarne ou pas. Donc moi, j'aime la vie, l'incarnation, donc j'aime la nature, la terre, et de plus en plus, en fait. De plus en plus.
Donc vous écrivez dans le Berry ou aussi vous avez...
Ah mais j'y habite en plus maintenant.
Voilà, vous y habitez. Oui, voyez, chantez.
Je suis revenu de cette région parisienne qui me semble de plus en plus hostile. Voilà, mes racines, comme un appel. Donc je suis né à Bourges, je disais, comme Yankelevitch. Et lui, c'était un peu par accident. Et puis, mais en fait, j'habite pas loin, vers Nohant. Voilà. Mais c'est comme un hasard qui a fait des choses. Bien sûr que c'est pas un hasard, mais vous voyez ce que je veux dire.
Oui. Donc il y a le temps de la ville. Enfin, vous êtes aussi éditeur, donc à Paris, et puis après la campagne, c'est plutôt l'écriture.
Je fais des sauts à Paris, ça va très bien dans ce sens-là.
Voilà. Bon, écoutez, tout va bien. Il n'y a ni mort. D'abord, vous écrivez, il n'y a ni mort ni vie parce qu'il y a que la vie. Et après, on s'achemine lentement mais sûrement à cette notion de poésie. C'est dans la poésie seule que s'accomplit le véritable sacre des mots. Donc pour ça, je pense à des haïkus, je pense à presque à des pierres méditatives, des pierres de rêve, où on avance comme ça.
La notion de poésie, aussi galvaudée soit-elle à mon sens aujourd'hui, me semble évidemment providentielle et sacrée et essentielle. Je pense que la musique est une forme supérieure de poésie, à vrai dire. Mais que je parlais du style, quand on écrit, ce qu'il faut, c'est arriver à être le plus poète possible. Parce que le poète l'emporte de loin sur tout discours linéaire ou quoi que ce soit, ça de très très loin. Donc si on n'est pas poète quand on écrit, à sa façon peut-être, mais en tout cas si on ne tend pas vers ça, on parlait de Rimbaud tout à l'heure, quand même des gens comme ça, qui le faisaient presque sans le savoir, d'être poète, bah alors... C'est pas très utile d'écrire forcément. On n'a pas cette conscience de devoir être poète.
Une pensée en archipel, ça j'ai beaucoup aimé. Une pensée en archipel, voilà seul ce qu'autorise l'exil de la pensée, où se confondent sujets et variations à l'infini.
Oui, parce que chaque pensée est comme un îlot.
Voilà.
C'est comme ça que je vois les choses. J'aime beaucoup la notion d'île. J'aime beaucoup l'idée que Nohant soit une île de terre, vous savez, une espèce de lieu-dit où il n'y a rien, à part le domaine de George Sand. L'idée qu'il soit allé à Majorque, qui est une île merveilleuse, les deux amants, là, Georges et Frédéric. Et la notion d'île, en général, me semble, chez moi, faire vibrer beaucoup. Venise, pour moi, est une île, par exemple.
Et c'est vrai, et comment vous écrivez, Jean-Yves Clément? Vous avez des... On l'a un peu évoqué.
Je sais pas, j'oublie, j'en sais rien quand même. Si j'ai pas le temps, il faut bien que j'écrive.
Vous avez des carnets, des papiers, vous écrivez sur votre portable, vous écrivez...
Oui, n'importe où, comme ça vient. Mais, oui.
Le titre...
Avant, j'écrivais qu'avec un crayon, quand j'étais plus jeune, et du papier. Mais après, on s'adapte, tous les moyens sont bons à prendre.
Le titre a son importance.
Le titre est fondamental. On parlait de la beauté de la couverture. Pour moi, c'est important aussi. C'est pour ça que j'ai mis une peinture d'un grand peintre avec qui j'ai la chance d'être ami, qui est un peintre qui a travaillé avec Bernard Noël, avec Kenneth White, avec Michel Butor, avec Jean-Marc Brunet. Donc la couverture et le titre, c'est une pensée, un titre. Donc c'est fondamental de trouver un beau titre quand on est éditeur et écrivain. Tout va ensemble. J'aime les beaux titres, les grands titres. À la recherche du temps perdu, c'est un titre merveilleux. Voilà. Des fois, une œuvre vaut par son titre. Déjà, on sent bien que ça va pas être n'importe quoi selon le titre. Vous voyez.
Bien sûr.
Donc trouver un titre. Mais là, je suis assez content de celui-là.
Ah, il est très bon. Et il est venu avant l'écriture du recueil ou après?
Pendant, je crois. C'est toujours pendant les aphorismes qu'il y a toujours des vieux qui traînent, d'autres qui viennent. Et c'est toujours mouvant un recueil d'aphorismes. Ça met beaucoup de temps en général à se construire, à trouver plus ou moins un ordre, des parties comme c'est le cas ici. Donc ça se fait de façon, comme disait Nietzsche, encore inopinée. Il dit je n'aime que les livres qui deviennent inopinément livres. Ça, j'aime beaucoup ça. Vous voyez ?
À chaque fois, il y a une rencontre, d'ailleurs, entre le mot et la pensée. C'est un peu le
entre tout et l'éditeur, le Comte de Thiers, ils sont merveilleux.
Oui.
Ils sont très audacieux.
Nouvel éditeur.
Et puis, le Comte de Thiers, ça me va. C'est tout côté aristocrate de l'esprit, bretteur là, avec ou sans mots, c'est formidable d'avoir de s'appeler le Comte de Thiers.
Oui, c'est vrai.
Ça aussi, ça compte. Tout compte.
Alors, la poésie, c'est là où les autres ne sont pas exil véritable.
Oui.
Et vous écrivez encore, il est des livres de l'exil comme il est des partitions de l'exil. On pourrait parler de partitions là aussi. Tristan Chandy de Laurence Sterne et les variations Diabelle de Beethoven.
Diabelli
de Beethoven en sont deux réussites majeures. Votre bibliothèque, Jean-Yves Clément, elle ressemble à quoi? Vous en avez plusieurs, une bibliothèque à Paris, une bibliothèque à la campagne.
Bon, elle est dans mon cœur, la bibliothèque, importe le matériel. J'en ai perdu, j'étais plein des livres quitte à les racheter. Oui, c'est pas... Plutôt ça, oui, c'est pas... Et puis, c'est pas énormément de livres, forcément. On a cité pas mal d'auteurs, là, déjà.
Oui.
Cela me suffirait. Henri-David Soreau, qu'on aurait pu citer aussi, extraordinaire styliste et un faiseur de maximes de pensée. Et lui, c'est un écrivain de la vie, de l'incarnation. Soreau, c'est très important.
Vous le relisez régulièrement?
Ah oui, Soreau, tout le temps. C'est fondamental pour moi. Vous voyez, donc des gens qui n'ont rien à voir forcément les uns avec les autres. Plutôt pas des romanciers, sauf exception.
Lesquels? Les exceptions?
Quand même Flaubert, quand même comme Stendhal, quand même Proust, malgré tout, même si en le relisant, j'étais un peu... Je sais pas, c'est...
Balzac.
Son style est tout à fait stupéfiant. Après, la pensée de Proust l'est moins pour moi. Ce qui veut dire, au bout du compte, en fait, ça tient pas en grand-chose. Mais on s'en fiche, l'habillage, le décorum, le style absolument prodigieux. Des Balzac, bien sûr, c'est ça que vous avez dit? Oui, bien sûr, oui, des grands Balzac. Bon. Assez classique, plutôt.
Plutôt classique, mais en contemporain.
Sans des correspondances. Lire des correspondances, c'est fabuleux, parce que là, c'est la vie. C'est l'écriture, celle de Flaubert et... Hors compétition. Parce qu'ils ne savent pas qu'on va les publier, donc c'est à la fois le naturel, et s'ils sont géniaux, alors là, on a tout de combiné. C'est l'écriture incarnée. Sinon, vous me disiez.
Non, j'attendais des contemporains.
J'y pense pas. Des contemporains, vous pouvez un peu attendre. Je n'en ai pas pour l'instant. Ceux que madame a cités, pas forcément vraiment. Mais je sais pas, c'est pas parce que ça me vient pas que ça n'existe pas. Hein.
Bon,
c'est quoi des contemporains? On a le droit de remonter jusqu'à quand?
Quelqu'un comme Quignard, par exemple.
Ah c'est un ami.
Bon, alors.
Donc c'est pour dire du mal. C'est un grand écrivain, en plus, c'est un ami. Bon. Et c'est un musicien.
C'est pour ça que je cite. Bon.
Profond musicien.
Non, c'est-à-dire que vous êtes aussi éditeur, Jean-Yves Clément.
Oui.
Donc,
le passeur, oui.
Passeur. Comment vous repérez un texte? Ça m'intéresse.
Alors là, vous parlez d'intuition tout à l'heure.
Ouais.
C'est la même chose. C'est tout de suite ou jamais, en fait. c'est un gros. Enfin, après, il faut aussi que ça rentre dans la
collection.
Oui, dans la démarche, dans la ligne. Inutile aux passeurs de faire des romans alors que le paysage est hyper saturé. Par exemple, on a essayé un peu, puis on a arrêté. Donc, on est plutôt dans la correspondance, je disais, dans les documents, les essais. Et
biographie.
On arrive à force à avoir une image de qualité assez classique. Hein. J'aime bien exhumer les morts qu'on oublie. Vous parliez tout à l'heure, toutes les deux, à juste titre, d'effacement. Je trouve que notre culture est une culture de l'effacement, de façon vertigineuse. Donc, on doit bien faire attention à ça. Mais moi, que j'ai dû republier la correspondance de Flaubert et Sand parce qu'on la trouvait plus, je trouvais pas ça normal du tout.
Non, c'est pas normal.
Et c'est arrivé à plein d'autres qu'on a republié et qu'on trouve plus. Les éditions, les grandes, les Flammarion, qui faisaient un boulot remarquable jusqu'aux années 90-2000 là-dessus, ont arrêté. C'est-à-dire que toutes ces correspondances sont épuisées, introuvables. C'est franchement pas sérieux quand on est un grand éditeur. On doit montrer l'exemple.
Il y a, je crois qu'il y a une collection où vous rééditez les prix Goncourt oubliés.
Oui, absolument.
Alors, pourriez-vous nous en parler de cette collection?
Oui, oui, on a commencé avec une Berrichonne que j'ai exhumée, qui était la compagne et la femme même d'Albert Béguin, un grand historien de littérature. C'est Raymonde Vincent, une femme absolument géniale, qui a eu le prix Fémina en 1937 pour un roman qui s'appelle Campagne, on dirait du Alain Fournier en femme. Ouais. Elle qui était illettrée jusqu'à 11 ans et qui a eu le prix Fémina à 28 ans. Donc une espèce de génie Berrichon, d'autres Georges Sand, qui a écrit d'autres romans, on a publié un deuxième. Et en 1937, elle a été saluée quand même par Aragon, Claudel, tout le monde. Donc ça, oui.
Ça, c'est une collection vraiment...
Ça, c'est génial, quand plus.
Vraiment, qu'on peut redécouvrir des livres. C'est vrai que ça va très vite. On oublie les années 80, par exemple, des gens qui passaient chez Pivot. On a complètement oublié. Aujourd'hui, les gens ne le lisent
plus. On va publier La Bibaude bientôt, avec une préface de notre ami Éric Poindron. La Bibaude de Raymond Vincenot, qui avait été connue et célébrée par Pivot lors d'un fameux apostrophe. La Bibaude, on ne la trouve plus beaucoup.
Et puis
d'autres comme ça.
Et puis, vous avez édité aussi, j'ai reçu... Madame Chardac, enfin sur
Henriette, elle est formidable.
Vous avez un côté aussi sur les biographies, biographies assez fouillées.
Elle, c'était Élisée Reclus, par exemple, voilà un génie un peu à la Sorot universelle et méconnue. On a fait une biographie de Proust aussi qui était tombée aux oubliettes. La biographie de référence de Colette par Bonal. Là. Et puis, oui, bien sûr.
Et puis aussi,
Clara Schumann. Oui, on a plusieurs collections comme ça qui essayent de faire de la qualité tant que c'est possible et finançable.
Comment vous faites pour partager votre temps entre l'édition d'autres écrivains et votre écriture à vous, et puis vos activités musicales
Et puis plein d'autres choses qu'on ne cite pas.
Ouais.
C'est très simple, il suffit de jamais s'arrêter en fait.
Pour trouver sa propre musique.
Jamais s'arrêter vraiment. En fait. On est toujours en mouvement. Mais ma propre musique, elle est dans ma vie propre et dans ma propre vie. C'est un tout où il y a beaucoup de choses importantes qui comptent, mais pas plus ce dont on est gentiment en train de parler que d'autres choses ou mes très proches. Les femmes de ma vie sont aussi importantes que les mots de ma vie. Enfin, même plus, à vrai dire, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je t'ai aussi. Parce que en plus, vous voyez,
L'enfance et l'âge avancé tiennent dans un même exil, celui de l'innocence des possibles débarrassée de toute attente. L'innocence des possibles débarrassée de toute attente.
Oui.
Et le dernier aphorisme, c'est l'exil et le champ de vie qui trouve sa meilleure assise et comme sa finitude, un jour d'été idéal est suspendu. Ça tombe bien, un jour d'été idéal est suspendu.
Oui, c'est les plus beaux jours de l'année, les jours d'été suspendus.
Une longue journée d'été.
C'est le ciel alcyonien, comme dit Nietzsche, tout ça. Semble bien aller, l'azur est. La planète n'en est plus là depuis longtemps. Là. Le jour d'été de la planète reste à réinventer.
Oui, c'est à réinventer. En tous les cas, merci beaucoup Jean-Yves Clément pour l'exil de la pensée. Est-ce que vous pourriez nous parler du festival cet été?
Moi, j'ai deux festivals consacrés, dans le Berry Romantique, consacrés à Liszt et Chopin, qui tous les deux sont venus à Nohant, et Chopin, il y a créé. J'ai Listomania à Châteauroux, et je dirige le festival de Nohant. Un festival historique qui a 60 ans d'âge l'an prochain, où sont venus tous les musiciens pianistes de la Terre, soit Elisabeth Schwarzkopf, Samson François, Condé-Couter, Arthur Rubinstein, et tout le monde. Et puis les grands d'aujourd'hui, la littérature y est présente aussi. Il y a eu 4 gros week-ends en juin, il y a 8 jours en juillet, plus spécifiquement consacrés à Chopin, avec des concerts évidemment, des conférences, voilà. On est à Nohant, chez Georges Sand, là où Chopin a composé 50 pages géniales. Aucun autre compositeur au monde a écrit autant de chefs-d'œuvre sur un aussi petit lopin de terre. Vous voyez, c'est pire que Mozart à Salzbourg. Chopin à Nohant, c'est C'est la caverne d'Ali Baba.
Votre rôle à vous, c'est de
directeur artistique.
Voilà, ouais. De sélectionner.
Ah bah c'est ce que j'aime, c'est imaginer. C'est comme un livre, un peu imaginer une programmation, imaginer qui on prendrait pour dire quoi, faire quoi. Oui, ça c'est le plus jouissif dans un festival. C'est pas quand il se déroule, c'est vraiment quand on le conçoit, quand on l'imagine. Faut que tout ça ait un sens aussi.
Voilà. Trouver le beau, être au diapason de tous les
talents.
Oui,
en respectant quand même un petit peu ce qu'on entend, le public, la critique. On n'est pas là que pour se faire plaisir à soi. Hein. Donc c'est un équilibre. Mais il faut venir à Nohant parce que c'est une île, on le disait, paradisiaque et pourtant très simple. Quoi. C'est le Berry champêtre dans toute son innocence sandienne. Hein. C'est la mare au diable. Ouais. J'habite à 3 km de la mare au diable. Mmh. On peut pas s'y baigner. Et c'est la petite fadette, c'est François le Champy, qui aimait Proust.
Et
Consuelo. Inspiré entre autres par Chopin, le grand roman sur la
Consuelo, dont Alain
oui,
disait...
Oui, peut-être son chef-d'œuvre.
C'est pour moi son chef-d'œuvre, oui. Consuelo. Je lisais ça quand j'avais 15 ans.
Et pour Proust, c'était François le Champy. Le site dans la recherche, au début, à la fin, sa mère, tout... c'est tout un bazar. Comme quoi, Sand est éternel, à redécouvrir tout le temps, et l'an prochain, ce sera les 150 ans de sa mort. Donc
alors, au passeur, il y aura des choses pour Sir George Sand.
Oui, j'ai déjà fait 6 ou 7 livres, hein, correspondances comprises autour de George Sand, avec un qui contient 400 lettres inédites. Voilà. Mais il y a peut-être quelque chose à faire encore, oui. Une ou deux correspondances, par exemple. Des trucs comme ça. Oui, oui.
Et à la rentrée, la littéraire, qu'est-ce que vous nous réservez?
Nous, on saute septembre. Enfin, la rentrée littéraire, elle appartient aux autres, c'est-à-dire les faiseurs de romans. Mais nous, ce sera après, avec la correspondance Béguin et Raymond de Vincent, totalement inédite que j'évoquais, avec plus tard des inédits de la correspondance amoureuse de Twain, Mark Twain, avec notre ami Thierry Gilibeuf, des choses comme ça, mais des choses qui peuvent attendre octobre et pas se mêler au grand bazar des prix littéraires. Que je respecte aussi. Hein, mais que...
Donc pas de romans au passeur, plutôt de la biographie.
Ou des romans disparus, comme vous l'avez très bien dit, de cette collection, là.
Oui,
Raymond de Vincent.
En plus, c'est patrimonial, vous aimez bien le patrimoine littéraire.
Mais absolument. Non, mais c'est littéraire, musical et culturel en général, hein. C'est celui-là qu'on veut enterrer. Et enterrer la culture, c'est enterrer la vie.
Bien sûr. Merci Jean-Yves Clément.
On n'est pas loin du Père Lachaise, mais il y a des limites.
Laurence Biavard, est-ce que vous avez...
Merci
à vous. Laurence Biavard, est-ce que vous avez une actualité à la rentrée
À la rentrée, non. Je n'ai pas d'actualité littéraire pour le moment. Non.
Donc on attendra
On attend un petit peu plus tard.
Vers le mois de décembre, vers là.
Vers décembre, où il y aura la remise des prix littéraires, prix littéraires fin novembre. Je vous en reparlerai. Mais côté édition, non, rien pour le moment. En tous les cas... je ne peux pas l'annoncer pour le moment.
Bien sûr. Merci à tous les deux. Donc, je vais pour...
Elle m'offre son livre, vous voyez, c'est gentil, c'est du direct. Bah, voyez, moi, je vais lui offrir le mien.
Eh ben, exactement. Jean-Yves Clément, L'exil de la pensée, aux éditions Le Comte d'Authière. C'est un éditeur très intéressant.
Ah, ça, oui.
Jean-Maurice de Montrémy.
Bien sûr. Et Michel Mollard, oui, c'est lui qui a créé...
Jean-Maurice de Montrémy.
Michel Mollard qui produit des concerts, en plus, au Théâtre des Champs-Élysées. Vous voyez, il fait pas que...
Non, mais c'est vrai que c'est un éditeur très, très intéressant.
Oui.
Jean-Yves Clément, L'exil de la pensée, aux éditions Le Comte d'Authière. Et Laurence Biavard, Les exilés, c'est un roman, aux éditions Labyrinthe.
Et je salue mon éditeur, Patrice Salsa.
Bon, bah, comme ça, on a fait la totale.
On a fait la totale.
Je salue, je remercie Flo Descailloux de nous avoir accompagné en musique. Je salue tous mes auditeurs. Ils peuvent retrouver le podcast de l'émission sur le site de Radio Libertaire, prendre le lien, le podcaster, le transmettre aux amis de vos amis. Merci à vous tous et à la fois prochaine.
Alors vous avez probablement reconnu, vous avez parlé, monsieur, de Clara Schumann.
Oui.
Et j'ai passé deux extraits en fond sonore Schumann. Il y avait aussi une autre oubliée, vous avez employé un mot effacé, enfin je ne sais plus, ça me convient très bien. Il y a eu aussi deux autres contemporaines de Chopin, Virginie Morel et Louise Farinck.
Absolument, Louise Farinck, très, très, très grande pianiste. Oui.
Et Virginie Morel, eh bien, je l'ai découverte il n'y a pas si longtemps, 1799-1869, je ne la connaissais pas du tout.
Eh bien, vous avez le qu'elle a existé.
Eh bien, le premier morceau de piano en fond sonore, c'était elle. Mmh. Voilà, maintenant un autre exilé qui, à mon avis, a été un des plus grands compositeurs du XXe siècle, qui vient de mourir. Il était argentin, il est passé par la France pour aller aux États-Unis et il s'appelle Lalo Schifrin. Alors, rien à voir avec votre style de musique, mais ça n'en est pas bon néanmoins musicien. Génial. Ouais, et donc, nous allons écouter La Danse du Feu. C'est un disque avec Dizzy Gillespie.
Just sentir bouger comme à Babylone jadis. Révèle-moi ce dont je vois les limites et le tout. Danse-moi vers la fin de l'amour. Danse-moi vers la fin. Danse-moi la noce, oh danse-moi tout le temps. Danse-moi tellement tendrement, danse-moi très longtemps. Tous les deux nous sommes en dessous, au-dessus de notre amour. Danse-moi vers la fin de l'amour. Danse-moi vers la fin de l'amour. Oh, danse-moi vers les enfants demandant à naître en paix. À travers les rideaux que nos baisers ont usés. Lève une tente pour s'abriter les fils déchirés toujours. Danse-moi vers la fin de l'amour.
Chantonne sous la douche, tandis qu'une fleur à la bouche, soleil pépère, part au turbin. Dans la chambre, tes rêves qui flottent, comme des bulles, comme des notes, et viennent se mêler aux miens. Le journal d'hier.